Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et bien bon le soir, ouh là là, on va le refaire, bien le bonsoir à tous, c'est un nouveau numéro d'une semaine formidable sur, oh bah c'est la rentrée les garçons, sur Radio Rythme Bleu. Nos invités, je vous les présente ce soir, Pierre Forest qui fait son grand retour, bonsoir Pierre,
bonsoir.
Qu'on va appeler Hibernatus parce qu'il s'est caillé en métropole en allant voir des matchs de football et de rugby. Olivier Deniaud, bonsoir.
Bonsoir.
L'homme qui valait 3 milliards, qui a toujours sa petite bague, qui est toujours
connectée,
on en parlait il y a 15 jours. Ouais. Et Eric Figuer,
Petting. Bonsoir à tous.
Et bonsoir à tous. On va commencer par le rugby, messieurs, si vous le voulez bien. Deuxième journée du tournoi Destination. On va rappeler les scores. La France qui est allée s'imposer 54-12 sur la pelouse du Pays de Galles à Cardiff. Victoire de l'Angleterre 31-20 en Écosse. Et victoire de l'Irlande 20-13 face à l'Italie. Au classement, l'équipe de France est très largement en tête.
Tu
10
dit,
points.
Tu
ils
as
ont
dit
fait
victoire de l'Angleterre en Écosse.
C'est plutôt
le contraire.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Victoire de l'Angleterre en Écosse.
Oui, bon, c'est le contraire,
victoire
ça va.
De l'Écosse contre l'Angleterre.
Voilà,
c'est la rentrée.
C'est la rentrée, exactement. Victoire de l'Écosse contre l'Angleterre. L'équipe de France qui est donc en tête du classement général avec le maximum de points possible, avec 2 points de bonus. Pierre Forest, tout va bien pour cette équipe de France. On va gagner le tournoi Destination tranquille. On va faire le grand chelem et puis on pense déjà à la Coupe du Monde.
Oh, j'irai pas jusque-là. Non. J'irai pas jusque-là puisque.
C'est plus une perche.
On n'est qu'à la deuxième journée. C'est vrai que la victoire contre les Gallois, elle était attendue. Hein. Je crois qu'il faut relativiser quand même le score, etc. Le grand mérite de cette équipe de France, c'est de ne pas avoir sombré dans la facilité contre les Gallois. Il ne faut pas oublier que les Gallois sont les deux dernières saisons du tournoi. Les deux derniers tournois, ils ont fini bon dernier.
Mm-hmm.
D'accord. Et puis là, sur
là,
les
ils sont bien partis pour continuer en 2026.
Et là, sur les 22 derniers matchs qu'ils ont disputés, tout confondu, 20 revers. Mm. 20 revers sur 22. Donc, l'équipe de Galles n'est plus ce qu'elle était à l'époque. Puis quand on compare un petit peu les chiffres, c'est hallucinant, mais c'est dramatique parce que le rugby gallois est en train de...
Est en perdition.
En perdition, hein, à peine 45 000 licenciés, je crois, contre
les structures
plus de 400 000 en métropole, mm-hmm. 1700 clubs en France, un top 14 qui tourne bien. Donc. Et puis on le voit, le niveau gallois est vachement descendu, parce que même dans la Coupe d'Europe, il n'y a plus ces clubs-là qui faisaient que... Voilà, donc relativisant quand même cette victoire, en parlant de l'équipe de France, les prochains sont un peu plus compliqués, puisqu'on devrait recevoir l'Italie
c'est
le
ça.
Prochain week-end
ouais,
à Lille, je crois.
Prochain à Lille, ouais.
Quand on voit ce que les Italiens ils ont réalisé au premier match, ils ont battu chez eux les Écossais, mm-hmm. hein, ce qui n'est pas donné non plus. Et là, contre l'Irlande, chez les Irlandais, ils n'ont pas été ridicules, loin de là. Ils ont même mis en difficulté le paquet irlandais, hein, qu'on avait déjà vu contre la France au premier match, en très grande difficulté. Ils ont perdu des piliers et puis ils n'ont jamais retrouvé un demi d'ouverture digne de ce nom avec la retraite de comment il s'appelait des demi d'ouverture
alors là on me pose une colle
non mais ça va en revenir
voilà. Ça va
donc voilà, on n'a pas une grosse équipe d'Irlande, hein, il faut le dire. Donc les trois prochains matchs, c'est on reçoit les Italiens, heureusement on les reçoit à domicile. Mm-hmm. Par contre, le déplacement en Écosse, où là on a vu que les Anglais ils ont chuté, hein, et bien chuté d'ailleurs. Et pour terminer, on recevra les Anglais pour le fameux crunch. On mm-hmm. espère que ça sera c'est pour le grand chelem.
Voilà. Mm. Eric Figuer, effectivement, Pierre le disait, cette équipe du Pays de Galles n'est plus ce qu'elle était. Reste que quand même, on va leur mettre 54 points, qu'il y a une équipe de France qui tourne bien aussi.
On l'avait dit la semaine dernière, si l'équipe de France joue à son niveau, il n'y aura pas de match. Et il y a eu effectivement pas de match, à tel point que quand on a regardé, quand on voit quelques séquences, on se demandait s'il n'y avait pas une équipe junior en face. Tellement la vitesse d'exécution, la vitesse de course était à l'avantage, alors plus qu'à l'avantage de la France. C'était vraiment très impressionnant. Alors c'est beau à voir, Pierre l'a dit, il faut relativiser forcément parce que le rugby gallois n'est plus ce qu'il était, on vient de le dire. Il y a quand même effectivement de bonnes choses, de choses très positives qui se construisent. On a quand même une ligne d'arrière avec aujourd'hui une charnière, même en l'absence de Ntamack, avec un Jalibert qui est vraiment très très haut niveau. Bon, l'arrière, Thomas Ramos, on l'a déjà dit. Évidemment, Dupont qui revient très bien. Il y a toujours des centres, même s'il sort en place d'un match à l'autre, qui sont vraiment de très très haut niveau. Devant, c'est solide. Il n'y a pas grand-chose à dire. De là, les titillés, les Sudaf, il y aura effectivement encore un peu de travail.
Vous voyez qu'on parle déjà de la Coupe du Monde.
Ah ben forcément, puisque c'est l'objectif. Évidemment que le tournoi est important, on le dit régulièrement, parce qu'il arrive tous les ans, parce que ça reste quelque chose d'important pour nous et pour les pays qui y participent. Mais ce qui nous intéresse, c'est la Coupe du Monde dans un an et demi, c'est certain.
Pierre ?
Oui, j'ai retrouvé le nom du demi-douzeur irlandais, Johnny Sexton.
Ouais, c'était Hibernatus.
par rapport à ce qu'on vient de dire de l'équipe de France, c'est vrai que même si ça a été un match facile, je pense que les bonnes pièces étaient à leur bonne place. Hein. Quand on voit l'association à la mêlée, puisqu'on l'a évoqué à l'instant.
Mais avec sérieux, avec rigueur, voilà, c'est toujours intéressant.
Et Jalibert a brillé, c'est vrai, sur ce match-là, avec des coups de pied transformés.
Ah, il apporte un petit plus.
Voilà, donc en plus avec Biel Biarré qui connaît bien pour avoir joué ensemble à l'UBB. Et puis ce jeu derrière avec trois leaders d'attaque. Il y a Dupont évidemment, il y a Jalibert. Et puis ne pas oublier Ramos. Mmh. Quand on voit que Ramos, des fois, il se met en position, par exemple sur les côtés fermés, il se met en position de 10. Mmh. Et Jalibert de l'autre côté. Voilà, donc c'est vraiment des atouts qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Après, il y a aussi ce jeu qui est préconisé par Galtier où. Dans la composition simplement du paquet d'avant, il joue avec 5 troisième lignes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Olivan et Guillard, ce sont des troisième lignes de formation, même en club, ils jouent en troisième ligne. Donc c'est vrai que ça court beaucoup, on a beaucoup vu et Guillard et Olivan sur les remises à l'intérieur, sur des attaques au large, etc. Donc après, il faudra voir contre un paquet d'avant avec digne de ce nom, avec qui gardent bien le ballon devant, donc ils vont être servis avec le prochain match chez les Italiens. Les Italiens, ils ont un gros paquet d'avant, ils ont une belle première ligne, ils ont fait monter quelquefois le pilier irlandais ce week-end-là, c'est vraiment costaud, donc il sera à l'épreuve pour l'équipe de France.
On est quand même un peu surpris de se dire que finalement jouer l'Italie la semaine prochaine, ça va être un test.
Ouais.
Alors c'est un peu paradoxal parce que mais l'Italie, on le sait, on l'a déjà dit, a beaucoup progressé, mais c'est assez marrant entre guillemets de voir que ce troisième match
en même temps, si les Italiens ils prennent une panse à la première journée, c'est plus du tout un test.
L'Italien, mais avec des si,
oui, non, mais bien sûr.
C'est ce qu'on dit. Si ma tante en avait,
pas aussi. Mon oncle.
Vous l'avez fait remarquer lundi dernier, je crois que c'est Bruno qui en parle. Que les Italiens, évidemment, ils ont fait de sacrés progrès ces quatre dernières années. Et maintenant, c'est les Italiens, ils sont considérés un peu comme les empêcheurs de tourner rond, hein, donc si on peut dire ça comme ça. Pour revenir à l'équipe de France, je crois que c'est une année paire. Les années paires, c'est on reçoit trois fois sur les cinq matchs. Donc c'est maintenant ou jamais. Et les trois fois qu'on reçoit, il y a les deux costauds, c'est-à-dire l'Irlande, normalement, et l'Angleterre. Donc c'est peut-être là que l'occasion se présente pour faire le grand chelem. Parce qu'après, il va falloir se déplacer et en Angleterre et en Irlande l'année prochaine, donc ça ne va pas être pareil.
Olivier Dognon.
Ouais, tout à l'heure, tu faisais une allusion sur la vitesse de course des rugbymen français par rapport aux joueurs du Pays de Galles, mais petite info, c'est Guillaume Tanon qui s'occupe de leur préparation physique. Il va les semaines où il sera à Clairefontaine. Et Guillaume Tanon, qui est le manager de la perf de l'athlée handisport en ce moment avec moi, et qui était l'entraîneur de Christine Aron, de Jimmy Vico, et qui entraîne d'ailleurs toujours Jimmy Vico. Et c'était le préparateur physique également lors de l'équipe de rugby à 7. Pour les Jeux Olympiques de Paris. Et il a bossé longtemps avec Jérôme Daret. Ouais. Voilà, donc. Peut-être que le secret des Biel Barré et autres, alors, ça fait partie Barré, de ça.
Bon, on sait qu'il a des.
Il était déjà rapide.
Non, mais naturel, évidemment.
Mais il m'a dit que sur les tests qu'il fait, ça serait un excellent coureur de 200 mètres. Ça fait pas.
On a vu un petit reportage avec Christophe Lemaitre.
Christophe,
qui était assez intéressant. Christophe ne court plus beaucoup aujourd'hui, donc ça a été un peu plus compliqué. C'est normal.
Et c'est vrai qu'il travaille régulièrement quand ils sont à Clairefontaine. Il m'appelle parce que je suis en visio avec lui. Hop, je suis à Clairefontaine. Il prend la moto. Voilà.
C'est Marcoussis.
Marcoussis,
parce que Clairefontaine, c'est.
C'est les manchots. Les Ligas qui était mon fief quand j'étais.
C'est
pas Clairefontaine, non.
Non, Clairefontaine.
J'ai dit Clairefontaine, c'est Marcoussis.
C'est Marcoussis.
C'est les manchots qui sont clairs.
C'est les manchots à Clairefontaine.
Olivier, un mot. On a entendu.
On peut se tromper.
On a entendu notamment à midi sur notre antenne le sélectionneur de l'équipe de France qui disait. Oui, bon, c'est bien, on a gagné ce match, mais attention, pas trop nous mettre en avant, parce que si on prend une déculottée la prochaine fois, grosso modo, tout le monde va nous enterrer. Et comment est-ce qu'on fait pour faire vivre un groupe, Olivier, quand tout se passe bien, mais qu'il faut quand même rester prudent. Comment est-ce qu'on fait pour...
Déjà, tu as affaire à des joueurs professionnels. Oui. Les mecs, ils connaissent, c'est pareil, quand ils jouent le samedi ou le dimanche, faut les garder sous pression. Bah, de toute façon... C'est plus facile de récupérer quand t'as gagné un match que quand t'as perdu. Parce que les questions effusent, les supporters, les journalistes, hein, que tu connais bien tout de suite. Et des fois, ça se joue à pas grand-chose.
Bien sûr.
Bon, en rugby, pas forcément. Mais en football, on sait qu'à un but près, un poteau, tout ça peut jouer. Bah, là, tu les gardes sous pression, bah, la récup, normal. Après, c'est surtout le mental qui va faire la différence. Ouais. Alors le sportif de haut niveau, c'est déjà compliqué d'arriver à haut niveau. Tu t'entraînes. Mais après, c'est réussir à faire des matchs, des performances sous pression. La pression, bah, tu l'as quand tu arrives au Pays de Galles. Je pense que, comme il le disait, dès que tu descends du bus, les supporters, ils sont là, ils te mettent la pression. Je pense que les supporters étaient présents ce week-end, les joueurs un peu moins. Et la difficulté d'un sportif de haut niveau, bah, c'est de rester à haut niveau. Donc c'est vraiment la difficulté qu'on rencontre pour garder sous pression, que ça soit une équipe ou des joueurs, enfin ou des sportifs individuels. C'est ça.
Ce qui fait la différence. Il y a des petits trucs pour les garder sous pression, les garçons. Il y a des trucs qu'on met en place.
Le groupe vit bien. Là, j'ai l'impression que le groupe vit bien. Oui, bah,
il y a pas de problème.
Forcément, c'est oui. C'est des moments passés ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu coupes les portables de façon à ce que chacun puisse ne pas être isolé dans son coin et tu fais des activités communes qui renforcent la solidarité entre les pairs. Tu vois, c'est toujours ça va par deux, par
bien trois. Bien dans le micro, Olivier.
Hop là. Par deux, par trois, par quatre. Et ils sont. Toi, c'est des petits. Bon, des fois, il y a des petits jeux
après,
à la con.
Il ne faut pas oublier qu'ils sont en permanence ensemble. Ouais. Ils passent énormément de temps.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail vidéo aussi, beaucoup de travail évidemment sur le terrain. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions de leur rappeler qu'il faut encore travailler sur tel ou tel domaine, sur tel point précis. Et puis, comme le match, effectivement, a été dominé, mais qu'il n'a pas été absolument parfait, puisqu'on a vu qu'en fin de match, il y avait peut-être un peu de relâchement, ou en tous les cas, voilà, il y a eu quelques petits manques. Bon, ben voilà, ça leur ramène un petit peu à la réalité, qui est que, voilà. Et puis, comme on disait effectivement tout à l'heure, il faut durer, et pour durer, tous les grands champions le savent, ou en tous les cas, ils le montrent, ils nous le montrent à nous, amoureux de sport, ben, pour perdurer, et c'est le but, et ben, faut travailler tous les jours, faut jamais se relâcher. Et là, évidemment, les staffs sont assez importants. C'est des grands professionnels aussi tout autour des joueurs, donc il n'y a pas de souci, ils savent faire.
Un petit mot sur la troisième journée de ce tournoi des destinations, ce sera le week-end prochain et Pierre l'évoquait il y a un instant, avec donc trois matchs Pays de Galles-Écosse, Angleterre-Irlande, ça va valoir son pesant de cacahuètes, et France-Italie qui sera bien aussi. Sur ces matchs, Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est défaite interdite pour les Anglais, victoire obligatoire pour l'équipe de France, et puis peut-être le Pays de Galles à domicile de pas complètement sombrer.
Je pense que l'équipe de France, après ces deux succès sur deux matchs, est dans une bonne
dynamique.
Bonne dynamique. Hein, donc, jouant à domicile en plus à Lille, c'est vrai que les Italiens vont leur poser des problèmes. C'est là où on va voir comment le paquet, surtout au niveau au devant, comment on va réagir. Mais normalement, on devrait passer sans encombre l'obstacle italien, sachant que c'est juste après que les choses risquent d'être un peu plus difficiles. C'est d'aller gagner en Écosse.
En Écosse, et après...
Quand on a vu, je ne sais pas si vous avez vu le match Écosse-Angleterre, ça a été un match rondement mené avec... avec des Anglais qui ont dominé, c'est vrai, ils ont dominé parce qu'ils avaient un paquet d'avant lourd, très physique, etc., mais qui ne sont jamais sortis de ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire gain de la possession de la balle, des up and under, sauf qu'en face ils se sont améliorés ici à la réception des trucs. Et puis il faut dire, il y a une charnière chez les Écossais, c'est Russell qui a fait les beaux jours du Racing il y a quelques années, pas plus tard qu'il y a 2 ans, et puis Ben White qui est le demi de mêlée remplaçant à Toulon. Ouais, on va en parler de Toulon tout à l'heure, qui est en train de sombrer lui aussi. Et puis bah, avec cette charnière là, ils ont vraiment mis les Anglais en difficulté, et ils connaissent bien le championnat français, ils connaissent bien les joueurs français, ils ont joué au top 14 tous les deux, donc voilà, à mon avis ça sera le rendez-vous à ne pas se louper, comme on dit, c'est en Écosse dans 15 jours.
Il y a encore du boulot, hein.
Effectivement,
on vient de lister les deux prochains matchs en attendant de parler effectivement de l'Angleterre. Mais là, il y a vraiment... alors, il y a eu un premier test, effectivement, contre l'Irlande, un match un peu plus facile contre le Pays de Galles. Et puis là, il y a deux vrais matchs à venir. Et on a vu, effectivement, que l'Écosse était un rival maintenant presque à la hauteur. Donc ça va être intéressant.
Mmh. Olivier, non, mais ces prochains matchs
C'est ça. Bah, l'Italie, de toute façon, il faut s'en méfier, hein, parce que quand tu vois les résultats...
Alors, si maintenant, il faut se méfier de l'Italie en rugby...
Oui, mais en foot, ils ont des soucis maintenant.
En plus, la plupart jouent
en
plus
mal, bien sûr.
Encore une fois, si les meilleurs font le boulot et jouent à leur niveau, ok, l'équipe de France passera, mais dans le sport, il faut faire le boulot.
Ils ont également de la relève, parce qu'ils participent à la Coupe des 6 nations des U20. Donc, ils ont une bonne équipe de relève là, non, ils sont. Puis les Italiens, ils sont très bons en sport court. Pourquoi ils seraient pas bons en rugby, alors qu'ils sont bons au foot, au volley, au basket, enfin voilà. Donc,
Le rugby encore, c'était week-end de doublon avec le top 14. Je vous donne les résultats du week-end. Alors il y a eu des cartons dans tous les sens. Bordeaux-Bègle s'est imposé 57-32 sur Castres. Montpellier est allé l'emporter 43-33 sur la pelouse de La Rochelle. Victoire du Racing 41-36 sur la pelouse de Bayonne. Lyon a atomisé Montauban, score final 73-12. Clermont est allé l'emporter 34-14 sur la pelouse de Toulon. Ce matin, le Stade toulousain, malgré l'absence de ses internationaux, s'est imposé 13-9 sur la pelouse du Stade français. Et puis la rencontre entre Perpignan et Pau a été reportée à une date ultérieure à cause de tempêtes et de poteaux qui ne voulaient plus tenir du côté de Perpignan. Pierre, on disait, il y a encore des scores fleuves dans cette journée de top 14.
Moi, je retiens de cette journée du top 14, je retiens au moins... Quatre éléments et qui concernent quatre matchs. Mmh. Évidemment, le Stade toulousain, qui malgré l'absence des titulaires habituels, hein, ils étaient 11. Quand même 11. Mmh. 11 être absents, 9 pour l'équipe de France et 2 autres qui ne pouvaient pas jouer.
Il faut avoir un sacré banc.
L'équipe BIS qui est montée, ils ont eu la chance d'avoir deux joueurs qui n'ont pas été convoqués ni par les Anglais, c'est Jack Willis, qui est le capitaine, et aussi King Dorn, l'arrière écossais, qui n'a pas non plus été convoqué par le sélectionneur écossais. Donc ce mélange-là entre deux joueurs d'expérience et puis c'est l'équipe de Toulouse, quoi. C'est, voilà. Ça a été agréable. Moi, j'ai regardé de A à Z, malgré le score très étriqué. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Mais c'était vraiment joli à voir. Donc Toulouse domine son sujet comme pas deux. Moi, je retiendrai trois matchs, notamment, où les trois ont perdu à la maison. C'est Toulon, vous l'avez dit. Toulon qui perd à la maison contre...
34-14 contre Clermont.
Clermont. Mmh. Et là, j'ai vu une interview ce matin de Pierre Mignoni qui se posait sérieusement la question, non pas pour l'équipe, mais pour lui. Donc, il doit faire une déclaration... sous 48 heures, c'est quand même... alors, à l'heure des pans, Olivon n'était pas là, qui est quand même le leader du paquet d'avant. À l'heure des pans également, je viens d'en parler, Ben White, qui est à la charnière, c'est Serein, qui a été convoqué en équipe de France, qui est rentré en fin de deuxième mi-temps contre les Gallois, Serein, et puis son remplaçant, Ben White, qui a joué avec l'Écosse. Donc... il y a eu un jeune qui a été mis balancé à la... Mais c'est...
Inquiétant pour Toulon.
Inquiétant pour Toulon, de la façon dont ils ont perdu. Certes, Clermont n'est pas n'importe quelle équipe, et puis ils tournent bien en ce moment, mais voir l'équipe de Toulon jouer de cette manière, tout le monde craignait, quand on voit Mayol, rarement on y va avec le sourire, mais voilà, là c'est... Je crois que... Voilà. Et alors il y a Toulon, et puis il y a Bayonne également, Bayonne qui a perdu chez eux, donc ils étaient invaincus toute la saison dernière, et là ça fait deux défaites à domicile, Castres il y a 15 jours, et maintenant contre le Racing, et puis là ils sont en train de dégringoler au classement, ils sont... Et je parle aussi de La Rochelle. La Rochelle, alors là, c'est complètement inexplicable.
Qui perd battu également... par Montpellier, 43-33. À domicile, en plus.
À domicile. La Rochelle, qui a été finaliste du top 14 il y a 3 ans, à peu près. Double champion d'Europe, qui a le même effectif. Tout le monde se pose la question. Peut-être qu'ils sont arrivés au bout du cycle, là. Ils ont pas su se renouveler, etc. Enfin bref, c'est quand même ces trois grosses écuries du top 14 qui sont en difficulté. Quand on regarde les classements, on est à peu près... Il n'y a que Toulon qui est sorti du top 6, ils sont 8e. Mais La Rochelle est 11e et Bayonne 12e. Bayonne était demi-finaliste l'an dernier. Voilà, donc c'est... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ces équipes sont en fin de cycle et ont des difficultés, puis surtout le niveau aussi de l'autre côté, des autres clubs, est totalement...
Ça reste très serré quand même, ça en termes de points.
Eric,
voilà, ouais. C'est vrai qu'il y a encore de la place, mais comme tu disais, Bayonne dégringole. Alors, ils ont de la chance puisque les deux derniers du classement sont tellement loin que, bon voilà, le championnat pourrait se terminer tranquillement pour eux, mais je pense qu'ils ont envie d'autre chose que de finir 12e. Mais là, ça dégringole tout doucement. La Rochelle, tu viens d'en parler, voilà, c'est la lente agonie, ils en sont encore très loin. Il y a encore du jeu, mais ça devient problématique.
Mmh. Olivier?
Non, je regardais la Toulouse qui est largement devant, puis pour un match en retard, quoi.
Ouais.
Donc derrière, c'est 51 points.
Mmh. Ouais, surtout qu'ils vont perdre à l'USAP. Donc.
Alors, c'est ce que j'allais en parler. Je lui dis, vu qu'ils jouent contre Perpignan,
oui, ça peut pas se passer autrement. Je voulais pas la faire, mais je vais la faire quand même. Il se dit que les Palois avaient peur de venir jouer à Aimé Giral et que voilà, ils ont c'est profité du mauvais temps, ouais, pour se reposer et recharger leurs accus.
Pierre Forest, vous parliez de Toulouse. Tout à l'heure, on voit Toulouse, nous ici à la télévision, vous les avez vus, vous jouer sur le terrain en réalité.
Oui, oui.
Cette équipe, elle est aussi impressionnante quand on est au bord du terrain dans le stade qu'à la télévision.
Oui, oui. Ouais. Il y a tout le contexte. Hein. J'étais à Valon pour un match, pour la Coupe d'Europe d'ailleurs, mm-hmm, et puis au Stadium pour un match de Top 14. D'ailleurs, c'était le plus beau match qu'on ait vu à Toulouse depuis le début, c'était contre La Rochelle.
Mais c'est parce que vous étiez là.
Non.
Ah oui.
77-7, là on avait 77-7. Et là, on a vu du spectacle.
Oui.
Maintenant, tous les... Non, c'est une ambiance formidable. Mmh. Et puis, très respectueux aussi des adversaires. Donc, non, c'est vraiment c'est la ville du rugby. Hein. C'est...
Voilà, t'as pas eu froid dans les tribunes.
Non. Il a fait un peu froid.
Il faisait froid quand même.
Ah bon. Match à 21h qui se termine à 23h30. Ouf.
Bien, messieurs, on va conclure sur cette page de rugby. On va marquer une pause et puis on se retrouve dans quelques instants. On parlera football où il y a pas mal de choses à dire. Et puis on parlera des Jeux Olympiques. Également, c'est du côté de Milan Cortina. À tout de suite.
RRB. La pub.
Cet été, offrez-vous un moment détente au Ramada Nouméa. Accès piscine plus déjeuner pour seulement 4000 francs adultes et 2000 francs enfants. Plongez, relaxez-vous et profitez. Réservé au 23 90 00. Ramada Nouméa, le bonheur sous le soleil.
Envie de voyager? Le financement, c'est Socalfi. Un mariage en vue? La sérénité, c'est encore Socalfi. Des travaux à lancer? La solution, c'est toujours Socalfi. Parce que chaque projet est important, Socalfi finance toutes vos envies. Contactez-nous dès aujourd'hui au 448 448 ou sur notre site socalfi.com. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Et si vous repreniez la main sur vos compétences, sur votre avenir professionnel? Avec Scasi Formation, développez les compétences d'aujourd'hui et de demain. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le design et les métiers du digital. Ne vous laissez pas dépasser. Formez-vous, avancez. Scasi Formation, prenez votre destin professionnel en main. Appelez-nous au 26 20 69 ou rendez-vous sur formation.scasi.nc. Formations éligibles au financement.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Et on retrouve tout de suite Lionel Sabot et ses invités pour la suite de la semaine Sportmidable.
Une semaine Sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Une semaine Sportmidable avec Pierre Forest, Olivier Degnaud et Eric Figuer. On va parler football, messieurs, si vous le voulez bien. C'était la 22e journée du championnat de France de Ligue 1. On a des choses à dire. Ça avait commencé par une défaite du Paris Saint-Germain, c'était tôt samedi matin, 3-1 face à sur la pelouse de Rennes. Victoire de Monaco, 3-1 sur Nantes, où ça va toujours aussi mal. Marseille et Strasbourg sont quittés sur un match nul, 2-2. Lille et Brest ont fait match nul, 1-1. Lens est allé s'imposer 5-0 sur la pelouse du Paris FC. À noter également la victoire du Havre, 2-1 face à Toulouse, de Lorient, 2-0 sur Angers. La victoire d'Auxerre, 3-1, est importante cette victoire sur la pelouse de Metz. et puis la victoire de l'Olympique Lyonnais. Ça me fait toujours aussi mal de le dire, mais enfin bon, c'est comme ça. L'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 2-0 sur Nice. Éric Figuère, allez tiens.
On commence par quoi?
Paris Saint. Bon, on va commencer par le PSG. Sixième défaite de la saison face à Rennes.
Ça commence à faire. Alors, comme on disait tout à l'heure avec Olivier, ils sont champions d'Europe en titre. Ils ont atteint un tel niveau, une telle qualité qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter non plus, mais à force de ne pas s'inquiéter, il va arriver ce qui arrive de temps en temps, c'est que à un moment donné, ils vont chuter. Ils ont chuté en Coupe de France contre le PFC quand même, c'était une très grande surprise, quoi qu'on puisse en dire. Là, ils jouent contre Rennes, qui venait de se séparer de son entraîneur, donc le Rennes ne va pas quand même extraordinairement bien. Et puis, ils perdent, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ils perdent 3-1 au-delà du score. Voilà, c'était un peu triste ou net. D'ailleurs, il y a eu un coup de gueule du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, qui a fait savoir, alors en interne, ça n'a pas trop plu, mais qui a fait savoir que...
Il faut reprendre par son entraîneur, après.
Oui, alors, bon, voilà, qui a fait savoir qu'il fallait penser à l'équipe, hein, au collectif, et pas à soi-même. Alors, c'est un lieu commun, hein, on le dit souvent. Mais là, quand un club aussi fort commence à avoir quelques voix dissonantes, voilà, ça peut inquiéter un peu. Voilà, alors... Alors, ils vont jouer Monaco en barrage de la Champions League. Voilà, en théorie, là, encore une fois, on parlait tout à l'heure du rugby. Si les cadors jouent à leur niveau, il n'y a pas de raison qu'ils soient inquiétés. Mm-hmm. Mais Monaco commence à retrouver quelques couleurs, voilà, avec une victoire contre Nantes qui va finir par descendre. Hein, voilà, il va finir par lui arriver ce qui arrive quand on tire trop sur la corde. Mm-hmm. C'est dommage pour eux. Mais bon, Paris doit se réveiller. Maintenant, ils ont récupéré tous leurs joueurs. Maintenant, l'intersaison est passée. Maintenant, il faut y aller.
Mais, Olivier Deniau, c'est incroyable quand même. On s'inquiète pour un club qui a perdu 6 matchs dans la saison, toutes compétitions confondues. Enfin, il y a plein de clubs, je vous assure. Moi, j'aimerais bien que Saint-Etienne n'ait eu que 6 défaites cette saison. Hein.
Ce qui m'étonne sur cette défaite en temps normal, je ne sais pas si la Coupe d'Europe, en Champions League, s'ils jouent Liverpool, Manchester, tu dis bon, ils avaient la tête, ils avaient la tête ailleurs. Là, ce qui, enfin, c'est pas que ça m'inquiète, mais c'est Monaco. Donc normalement, c'est des sportifs de haut niveau, comme tu l'as dit, ils sont champions d'Europe. Normalement, ils devraient pas être plus inquiets que ça. Monaco est derrière eux dans le classement. Ça devrait passer maintenant. Oui, t'as un ou deux joueurs qui l'ont joué perso pendant le match. Hein, j'ai vu. Puis c'est pour ça que Dembélé disait que l'institution est au-dessus. Bien sûr, l'entraîneur l'a rappelé parce que c'est pas Dembélé de faire ce genre de déclaration après. Mm-hmm. Maintenant voilà. Hein, après Rennes quand même aussi. Rennes, les joueurs étaient rebelles parce qu'ils voulaient montrer. Ils voulaient montrer que le fait d'avoir évincé Habib Bale, c'était une bonne chose, puisque on sait très bien qu'ils ont dit que c'est un collectif de qualité à Rennes. Sauf que ça passait pas. Quand un entraîneur est choisi, il peut pas plaire à tout le monde, et là il se trouve qu'il plaisait pas au plus important, puis qu'il les a mis de côté, notamment le gardien, avec les histoires un peu avec le président, enfin bon bref, donc bref, ils ont voulu mettre, ils ont fait exprès de déjouer, et là je pense qu'ils étaient à 120%, alors que Paris était peut-être qu'à 80%,
et ce matelas de sécurité qu'ils avaient l'an dernier, notamment en Ligue 1, et qu'ils se sont construits après en Ligue des Champions, mais qu'ils avaient très largement en Ligue 1 et qu'ils ont depuis longtemps, aujourd'hui ce matelas, il est beaucoup moins épais. Et on se rend compte que s'ils ne mettent pas les ingrédients, et ben derrière, il y a quand même... Et puis, il y a eu, effectivement, comme tu dis, 6 défaites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi, 6 défaites? Ça veut dire aussi que ça donne des idées aux autres. Ouais, ça donne des idées aux adversaires qui disent,
faut les presser très haut, pourquoi pas nous.
Ouais. Et on a vu effectivement en Coupe du Monde des clubs où ils se sont fait taper par Chelsea. Pourquoi? Parce que Chelsea avait compris que il fallait les bouger, les Parisiens.
Et Marseille avait compris ça aussi. Hein,
et bien sûr.
Ils ont fait la finale où ils ont fini 2-2 là. Ils ont perdu au penalty, Paris a gagné au penalty. Mais
très honnêtement, la saison qu'ils ont fait l'année dernière, moi j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent refaire la même saison.
Alors, la même saison, non, ils ne peuvent pas refaire la même saison.
Ils ont enchaîné deux saisons. Enfin, voilà. Ils ne sont jamais arrêtés.
Ils ne gagneront pas la Coupe de France.
Faire la même saison avec un niveau aussi important, où là c'est effectivement compliqué, mais là c'est plus compliqué. Mais malgré tout, ils ont un niveau aujourd'hui tellement important, ils ont une profondeur de banc tellement importante.
Ils sont devenus un peu plus humains, on va dire ça comme ça, par rapport à la saison dernière où ils écrasaient tout.
Alors c'est le lot de tous les grands clubs européens. hein, City, quand ils gagnent la Ligue des Champions.
Bien sûr.
Tous les clubs européens passent par là, les grands, hein, je parle. Ceux qui sont capables de gagner et qui gagnent la Ligue des Champions. L'année d'après, il y a toujours forcément un petit contre-coup. C'est très rare d'avoir un club qui gagne 2-3 années d'affilée avec des champions.
Je dis, ils étaient à 80%.
Mais
s'ils ne jouent plus collectif.
Eh oui, 80%, ça ne suffit pas. Il faut jouer à 100%.
Est-ce que ce n'est pas un peu, pardonnez-moi, mais un petit écran de fumée pour qu'on parle moins du match nul de Marseille face à Strasbourg et de tout ce qui s'est passé dans la coulisse de l'Olympique de Marseille ces derniers jours?
Tu veux dire qu'ils auraient fait
exprès de perdre? Non, je ne dis pas ça. Non, je parle pour vous. Est-ce que vous n'avez pas envie de parler beaucoup du Paris Saint-Germain pour éviter de parler de l'Olympique de Marseille? Monsieur Forest.
Marseille, c'est un très bon résultat vu la branlée. Il n'y a pas d'autre mot, de 5-0 qu'ils avaient pris le match précédent. Donc, faire 2-2 à domicile avec la trouille au ventre contre Strasbourg, qui n'est jamais si facile à manœuvrer. C'est, moi, je trouve que c'est un bon point qu'ils ont pris là.
Compte tenu du contexte. Il a ruminé ça pendant 2 mois quand il était dans la glace.
Mais vous inquiétez pas, on va gagner la Coupe de France cette année.
Voilà.
Le directeur sportif Venatia, c'est l'OM, quoi. De toute façon, ils sont sous pression dès qu'ils arrivent. Les joueurs, il faut qu'ils soient performants tout de suite. Il ne faut pas perdre un seul match à domicile. Après, ils ont battu Lens il y a 3 semaines ou 4 semaines, quoi. Ils ont été capables de battre Lens et puis après, ils vont perdre.
Quand tu veux concurrencer le Paris Saint-Germain en championnat de France, il faut plus que ça. L'OM, ce club historique qu'on aime tant, qui est capable de fulgurance qu'on aime tant. Quand on veut gagner le titre de champion de France, il faut plus que ça. Et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle ici à ce micro, de ce manque de continuité.
Troisième pour être.
Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils se sont habitués. Alors, c'est difficile avec l'ogre parisien, mais ils se sont habitués en fait à juste espérer finir deuxième ou troisième pour jouer la Ligue des Champions.
Lens est devant pour l'instant.
Oui,
c'est ce que j'allais dire, c'est devant.
Mais Lyon maintenant, Lyon, on les a rattrapés.
14 victoires d'affilée, ça te fait mal aussi de le dire.
Ouais, hein. C'est pour ça que
ça te fait mal, t'en parles pas.
Le faire, Olivier. Alors, un petit mot sur le classement, parce que je le trouve extrêmement important en Ligue 1. Lens est premier avec 52 points, le Paris Saint-Germain est deuxième avec 51 points. Lyon, troisième avec 45 points, et Marseille, quatrième avec 40 points. Et puis le sixième, Lille, qui est avec 34 points. Donc les deux premiers sont vraiment proches l'un de l'autre. Et puis derrière, il y a pratiquement un gouffre entre tout le monde.
Il y a un gouffre.
Lyon est sur une pente vraiment ascendante. Là.
Ils ne reviendront pas sur Paris et sur Lens, bien évidemment.
Mais derrière, ça va être chaud.
Mais ils vont continuer à augmenter. Alors on dit ça, il suffit qu'on dise ça pour que le prochain match, Lyon perde.
Il y a un Lyon-Marseille qui se profile, ou un Marseille-Lyon, je ne sais plus dans quel sens, mais dans 2 semaines,
on verra lequel a le plus de caractère.
C'est un Olympico.
Il y aura bien que ce soit.
Un Olympico. Il faut donner des noms.
Exactement, le classique, l'Olympico. Il nous reste 5 petites minutes. Messieurs, j'aimerais qu'on parle Jeux Olympiques parce que c'est quand même une compétition juste énorme, c'est tous les 4 ans. Avec l'équipe de France qui on est à mi-parcours, 15 médailles, 4 d'or, 7 d'argent et 4 de bronze. Les Français qui ont égalé le meilleur résultat qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques. Tout va bien, Olivier Dognon.
Oui et non.
Toi qui es le spécialiste des Jeux Olympiques.
Il y a plus d'épreuves que les sessions précédentes. Ouais. Il y a plus de neige aussi d'ailleurs, puisqu'on est dans des stations de ski, puisque Pékin c'était pas non plus le top du top. Mais il y a le ski de fond, enfin le biathlon qui tourne bien. C'est l'objectif.
C'est conforme aux attentes.
C'était être dans les 5 premiers.
Ouais.
C'est ça, ils veulent finir dans le top 5. Ça veut dire que top 5 l'été, top 5 l'hiver. Plus toutes les organisations, la France est quand même un pays plutôt sportif, si on va par là. On n'est jamais assez. Mais ça suit son cours. Après, heureusement qu'il y a le ski de fond et le biathlon. Parce qu'on n'a pas beaucoup de médailles à côté.
Que les Italiens soient devant la France ou
les Italiens sont
général,
deuxième, je crois, derrière la Norvège.
Ils sont deuxième au classement des médailles.
Ils ont toujours été.
Ils ont quelques stars.
Ils ont quelques stars au niveau. Et ça compte. Et puis, avec une... je voulais en parler tout à l'heure, mais parlons-en maintenant, Federica Brignone, qui, parce qu'on n'en parle pas assez, deux médailles d'or, bon, c'est formidable, ça. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 9 mois, elle se blessait très gravement. Il lui promettait 2 ans avant de pouvoir revenir au plus haut niveau, et là, elle est double championne olympique. Donc ça, c'est tout bonnement exceptionnel. Ça tire forcément un pays qui reçoit ces Jeux olympiques, et ça tire un pays vers le haut. Et puis...
elle est chez elle, c'est à domicile.
C'est encore plus des champions extraordinaires.
Qui reviennent. Bon, bah, t'as ça. Puis t'as la petite française là, qui a été en ski de fond, là, qui a eu les petits soucis. Ouais. Voilà, Julia Simon qui a eu ses petits soucis de.
En biathlon,
juridique, on va dire. Elle était revancharde, elle a fait 2 médailles d'or. Tu vois, c'est toujours pareil. Il y a toujours des sportifs qui ont des choses à prouver. Et c'est, au niveau mental, ça leur donne de la force.
Des médailles qui est bon, puisque l'objectif était de faire 5e. Alors, ça n'est pas encore fini. Donc, il faut encore. Mais moi, je trouve qu'on reste un petit peu quand même. Moi, je suis encore un petit peu déçu. Voilà, je trouve qu'avec le niveau, et notamment en biathlon, il y avait moyen d'avoir encore 2-3 médailles. En snowboard cross, ils sont passés à côté. En ski de boss, ils sont passés à côté. Il y avait de très belles chances de médailles.
Il paraît que la piste, alors c'est pas qu'elle est la neige, elle est trop molle, mais il paraît que la piste, elle est pas assez pentue.
C'est
la faute de la piste. Et le problème, c'est que les autres, ils se servent de l'aspiration, mais c'est simplement la course qui est comme ça. Je crois qu'à un moment donné, ils se sont trompés dans la préparation. Les mecs, ils ont super bien préparé, sauf que je pense que la pente de la piste, ils la connaissaient. Enfin, c'est pas nouveau. Tu vois, il y a peut-être un petit truc. Et là, pour le par équipe, ils ont réglé, ils ont recommencé à travailler sur l'aspiration et ils ont fait la médaille de bronze.
Olivier, un petit mot. Vous connaissez bien les Jeux Olympiques, les Paralympiques. C'est quoi cette c'est un truc énorme, les JO. Que ce soit les Jeux d'été, d'hiver, c'est les Jeux Olympiques et c'est énorme.
Et dans les formations qu'on a en tant qu'entraîneur, et moi, bon, maintenant ça fait un paquet de temps et du coup je participe pas mal sur ces formations, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la pression qu'on peut avoir lors des Jeux Olympiques ou Paralympiques. Et ce que tu disais, le sportif doit être préparé à ça, les coachs aussi doivent préparer à ça, à dire le bon mot au bon moment. Les mots justes.
Et on ne
quand
sait
il faut.
Si ça marche qu'à la fin.
Et on sait que ça va, non, parce que c'est pas tout de gueuler sur les allez, ça veut rien dire ça. La médaille va dire allez, tu veux que j'aille où, quoi. Tu vois, à la limite, c'est ça. Non, mais à un moment donné, il faut trouver le bon mot au bon moment pour le bon athlète. Et en fonction des athlètes, c'est différent. Et ne pas être influencé, parce que quand tu es à domicile, il faut savoir que là, encore une fois, les journalistes, ils sont derrière toi. Le public est derrière toi. La famille est là. Et donc, c'est là où il faut rester centré, focus sur ton objectif. Ouais, si je commence à parler, j'en ai pour une heure, je te préviens.
C'est pas grave.
C'est là où le mental est important. Je te disais, sous pression, être capable de faire de la performance sous pression. Et le mec, il dit, putain, je comprends pas, à l'entraînement, j'ai fait ça. Et un autre exemple que je vais te donner, j'ai regardé le patin à glace. Alors, je suis pas un fanat de patin à glace, mais je regarde tout. Je regarde le curling, je regarde le hockey, je regarde.
Extraordinaire le curling. J'ai découvert un sport.
L'américain qui était favori, il fait un super numéro dans l'imposé. Tout le monde dit le Kazakh il va finir deuxième. L'Américain, il voulait battre le record du monde. Résultat, il fait 8e. À un moment donné, il ne faut pas se tromper d'objectif. T'es au jeu pour gagner, pour faire un podium. Dans les autres compétitions, tu peux battre un record du monde. Mais un championnat, tu dois gagner. C'est la place qui compte. Le mec, il aurait juste assuré là, un triple ou de vouloir faire des quadruples ou des quintuples, je ne sais pas quoi, là, des Lutz, des Axel. Tu vois, c'est ça. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Et il ne faut pas se tromper non plus. Si la piste, elle est pas pentue, tu ne vas pas travailler sur des pistes pentues.
Messieurs, coup de cœur, coup de griffe, rapidement, les uns les autres. Olivier, on commence avec vous.
Alors, le coup de cœur, là, c'est hier, il n'y a pas eu de médaille pour les Français, mais il y en a eu une. Martin Fourcade, médaille d'or 14 ans après. Il y avait un Russe qui était dopé.
Le Qatar,
il s'est fait choper. C'est le Russe. C'est un Russe.
C'est un Russe.
Donc, comme on fait pipi dans les petites éprouvettes et on prend le sang, on les met dans les petites éprouvettes, on les met au congélateur. Et quand on les analyse 15 ans plus tard, on trouve que le mec était dopé. 14 ans après, il était dopé. La médaille a été rendue à Martin Fourcade, 6 médailles d'or.
Bravo, monsieur.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les dopés, on peut les choper dans 20 ans. Peut-être on va récupérer des médailles. Voilà mon coup de cœur.
Pierre,
je vais rester dans le rugby, dans la destination.
Vous avez le droit.
Coup de chapeau à Madame Holly Davidson, écossaise, qui arbitrait le match Irlande-Italie, et qui s'en est très bien tirée. La preuve que, comme quoi, des fois, quand c'est une femme qui arbitre, il y a beaucoup moins de contestations et de voilà. Donc il y a voilà, c'est C'est la petite connotation galante un petit peu dans le rugby où tout le monde se met à gueuler, etc. Alors que là, dès qu'il y a une dame, c'est différent. Donc, c'est une opération renouvelée.
Éric.
Alors, très rapidement, petit coup de cœur pour la joueuse de tennis canadienne Mboko, qui est en train d'arriver au plus haut niveau. J'ai vu quelques images de son jeu et de son style. J'ai été complètement bluffé et j'ai hâte de la revoir. Et puis, je vais plomber un peu l'ambiance, mais un très gros coup de gueule contre tous ces entraîneurs, tous ces éducateurs qui abusent des jeunes qui leur sont confiés. Je dis ça parce qu'il y a encore un nouveau dossier qui vient de sortir au niveau de la voile en France. Alors, c'est pas de la voile en général, hein, c'est un endroit bien particulier. Et on en parle quand les faits arrivent, mais on se rend compte que les faits continuent à arriver. Et ça, c'est un vrai drame. Donc, tous les éducateurs, autant qu'ils sont, voilà, se remettre en question.
Allez, je me permets moi aussi un petit coup de cœur, parce que ça me fait marrer tous les matins quand je me réveille. C'est le classement des presque médailles de la Fédération Française de la Loose. C'est juste énorme, ça me fait marrer, l'équipe de France. Ouais, on est bien, on est premier. Ouais, on est bien, on est bien avec. Ouais, exactement.
Presque médailles.
Voilà, les presque médailles de la Fédération Française de la Loose. Si vous avez 5 minutes à perdre le matin, allez sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, vous verrez.
C'est vrai que c'est drôle.
C'est vraiment très, très marrant. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente soirée et on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau une semaine sportmidable. Ça va les garçons, on vous embête pas trop, on n'a pas rendu l'antenne encore. Hein. Ouais, non mais il a eu froid en métropole, effectivement. Léana Colombo arrive dans un instant pour le journal.